Voje al Esperanto. Al Esperanto. Une émission proposée par l'association Esperanto 24. Pour les non-espérantophones, Survoje al Esperanto signifie en route pour l'espéranto. Je m'appelle Brigitte Favorial et j'anime cette association qui se trouve au quartier des Mondoux, à Périgueux. Fidèles à leur charte, Radio Périgueux 103 et Radio Plaisance permettent de s'exprimer sur leurs ondes à toutes celles et à tous ceux qui partagent le désir de forger d'autres manières d'être. Parmi ceux qui s'éloignent de la pensée unique, la communauté espérantiste, par l'apprentissage d'une langue simple et non hégémonique, a pour vocation de faciliter le rapprochement des peuples et des cultures. Voici donc Survoje al Esperanto, en route pour l'espéranto, une émission qui vous propose de faire connaissance avec la langue internationale espéranto et avec sa culture. Nous vous proposons aujourd'hui une petite histoire dont nous devons la version française à la plume de M. Paul Baudin, en souvenir du temps où il était enseignant en Algérie, avant l'indépendance. C'est son fils Jacques qui a traduit cette anecdote en espéranto et c'est lui qui va nous la raconter. Voilà donc l'histoire de Mesaoudi, le Fada. À toi Jacques.
Mesaoudi la simplulo. Mesaoudi le fada. En nia oazo, ciui liconas. Dans notre oasis, tout le monde le connaît. Les vagas, les migras, cun sia bastono levita ao turbanta, fine de la braco. Il déambule, il erre, le bâton levé ou tourbillonnant au bout de son bras. Lia araba robo estas grisa pro malpurajoi kai polvo. Sa djellaba est grise de crasse et de poussière. Li ciam avas salivan flueton qui ou galonas sian malsupran lipon. Il a toujours un filet de bave qui galonne sa lippe inférieure. Li colere criadas fronte al cielo. Il vocifère face au ciel, sed lia rigardo pli heligias kai pli dolcigias, pli affabligias, cun quiam gi intercruciĝas kun tiu de alia homo, ĉefe se temas pri infanoj. Mais son regard devient plus clair et plus doux, plus amène, dès qu'il croise celui d'un autre humain, surtout s'il s'agit d'un enfant. En nia oazo, oni nomas lin la simplulo. Dans notre oasis, on l'appelle le fada. Sed, oni consideras kaj respectas lin, char oni attribuas al li povojn pli malpli supernaturajn, mais on le considère et on le respecte parce qu'on lui attribue des pouvoirs plus ou moins supernaturels. Kiel tiuj de divinisto, magiisto kaj resanigisto per simpla mansurmeto, comme d'être quelque peu devin et mage et guérisseur par simple imposition des mains. Nous, oni primocas, kai caricaturante imitas lin. Bien sûr, dans son dos, on se moque de lui, et on l'imite en le caricaturant. Tamen, oni calculas, kun liai rimarcoi, kiun oni ciam pripensas, kiel trafai kai sagiai. Cependant, on tient compte de ces remarques que l'on considère toujours comme pertinentes et judicieuses. Tuj kiam externorma problemo ekstariĝas, dès qu'un problème paranormal surgit, oni tuj ekserĉas lin por peti ke li intervenu agigante sian magion. Vite, on va le chercher pour lui demander d'intervenir en faisant agir sa magie. On y sin tournas al li ancao por simpla sun frappo. On a recours à lui aussi pour un simple coup de soleil, kiel estigas gravan céphaléon, c'est-à-dire une insolation qui déclenche une céphalée sévère. Nous, tiam li ŝajnas efika kaj sukcesas, oni ne scias kiel malaperigi tiujn kapdolorojn. Eh bien, là, il semble efficient et réussi, on ne sait comment, à faire disparaître ces maux de tête. Iun septembron en la jaro dek naŭ kotopo, un certain mois de décembre de l'année 1900 et quelques, la sequezo estis severa. La sécheresse était sévère. Tiel severa que plurestis nur du felsakoj da agvo en la oazo por la tuta loĝantaro. Tellement sévère qu'il n'y avait plus que deux outres d'eau à l'oasis pour toute la population. La homoi plendadis. Les gens se lamentaient. Oni mortos pro soifo, kai niai dombestoi. Kio ili farigios? Catastrophas! On va mourir de soif. Et nos animaux, que vont-ils devenir? C'est la catastrophe! Tio estas antao signo de apocalypso. Ce sont les prémices de l'apocalypse. La conversacioi rapide crescis foruzante salivoin do agcrigis soifon. Les conversations allaient bon train et usaient de la salive, donc aiguisaient la soif. Se oni petus de Messaoudi, si on demandait à Messaoudi. Ci volas ridi, kion li povas? Tu veux rire? Que peut-il? Kion oni riskas? Qu'est-ce qu'on risque? Oni do petadis de Messaoudi lian intervenon. On va donc solliciter Messaoudi d'intervenir. Hola, hola! Ĉu vi opinias ke mi kapablas? Hola, hola! Vous croyez que cela m'est possible? Yes, Messaoudi! Oui, Messaoudi, portu al mi unu felsacon da agvo kai ancao unu cuveton. Portez-moi une outre d'eau et une cuvette. Diligente, oni plenumis lian demandon. On s'empresse de satisfaire à sa demande. Li elvelchis la acvon de la felsaco en la cuveton. Glop, 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 glop. Il verse l'outre dans la cuvette. Glop, 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 glop. Quiam la felsaco estis mal plenigita, Mesaudi demetis sian malpuran araban robon, gin trempis en la cuvet acvon, cae zorge eclavis gin. Quand l'outre est vidé, Mesaudi ôte sa djellaba et la trempe dans la cuvette, et entreprend de laver sa djellaba. Oh! Ecris la popolamasso. Li estas frenesa? Oh! Crie la foule. Il est fou. Qui au resto salni por trinqui? Qu'est-ce qu'il va nous rester pour boire? Mais Saoudi forgetis l'agvon el la cuveto, piede de mis cresca arbo, anca oggi evidente soifa. Il jette l'eau de la cuvette au pied d'un arbre rabougri et manifestement altéré lui aussi. Vi alvocis min, nun fidu min. Vous m'avez appelé, faites-moi confiance. Chu vi avas fidon yemi, vous avez confiance? Yes, cria dis la homa masso. Oui, tiam Mesaudi quiu estis lavanta, sian araban robon diris. Alors Mesaudi, qui a lavé sa djellaba, dit, alportu apud mi la alian felsacon da agvo. Apportez-moi l'autre outre d'eau. Oh! Ecris la popolamasso. Oh! S'exclame la foule. Fidumin, diris Mesaudi. Faites-moi confiance, dit Mesaudi. Oni alportis alli la duan felsacon qui es agvon li velchis en la cuveton. Clop, 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 clop. On lui amène donc la seconde outre, qu'il verse dans la cuvette, clop, 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 caili comensis tralavis ian araban robon en la cuveto. Et il entreprend de rincer sa djellaba dans la cuvette. Oh! Ecris la indigna hom amasso. Oh! S'exclame la foule indignée. Quion ni tui trincos de nun. Qu'est-ce qu'on va boire maintenant? Fidumin, cris Mesaudi gestadante. Faites-moi confiance, crie Mesaudi en gesticulant. Tiam li pres sekigis sian araban robon, floc, 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 et le voilà qui essor sa djellaba, floc, floc, floc. La lastai gutoi de la valora agvo falis en la cuveton. Les dernières gouttes de la précieuse eau tombent dans la cuvette. Same kiel post la lavado, Mesaudi forgetis la tralava d'acvon, piede de malsanema arbeto. Mesaudi, comme après le lavage, va jeter l'eau de rinçage au pied d'un arbre souffreteux. Cai iris etendin sian araban robon sur mureto rande de la plazzo, et va étendre sa djellaba sur un muret de pierre sèche qui clôture la place. Ciui homoi confuse rigardis unui la aliaen. Quelcae lamentis. Tous les gens se regardent interloqués. Certains se lamentent. Mal rapide la cielo nebuligis cae subite fulmo tondro estigis nascante esperon cae agvon. Lentement, le ciel se voile et un orage se déclenche, amenant l'espoir et l'eau. Oh, Mesaudi, qui a maniere vi faristion? Cris la homoi. Oh, Mesaudi, comment as-tu fait? Crie la foule. Nenion farismi. Estas mia patrino, kiu ciam diris, sufficias extere etendi sien tolajoin porque tuj ec pluvu. Moi rien, c'est ma mère, elle disait toujours, il suffit d'étendre son linge pour qu'aussitôt il se mette à pleuvoir.
Je vous entraîne pas très loin de l'Algérie, vers l'Espagne, avec le groupe catalan Caitiel Plou, etc. et leur chanson Adiao, Birdeto Mia, Adieu mon petit oiseau, c'est un chant traditionnel catalan.
Mi canto audu brigia fe temas pri un abino del muelist fini adia o mi reto mia a mine forgeso si ofte si trattas vendisto estas por si presu La patrocina admonis, ne al parolu di. Adiau, birreto mia, mine forgeso si. A mia patro auscultu, penos vi sensu ce. Se mine povas dum tage, Adiau, birdeto mia, mine forgesos vi. Mi lasos vin sen heredo, mia pleia giuli. Mi comportos la raitoin de la patria. Adiau, birdeto mia, mine forgesos vi. Iros mi al Barcelono, servi al cavalier. Cai se observat mi menuas, iros mi al lanzi. Adiau, birdeto mia, a mine forgesos vi.
Voici maintenant la suite de l'étude sur le problème des langues avec des extraits de l'ouvrage de Claude Piron, Le défi des langues. Thierry aujourd'hui abordera le problème de la communication entre simples citoyens et illustrera par des exemples la fréquence du handicap linguistique.
La communication linguistique pose-t-elle réellement problème ? La question mérite d'être soulevée, car si pour certains les difficultés linguistiques sont d'une évidence agaçante, c'est loin d'être le cas pour la majeure partie de la population. Une enquête rapide révèle que la plupart de nos contemporains n'ont pas l'impression qu'il y ait là de quoi fouetter un chat. Cela se comprend. Le citoyen moyen a peu de contact avec l'étranger. Il ne se demande pas comment l'information parvient à son journal favori. Que les nouvelles puissent être sélectionnées en fonction de la langue des grandes agences, cela ne lui fait ni chaud ni froid. Quand il voyage à l'étranger, il parvient à se débrouiller, ne fût-ce que par geste ou à l'aide des quelques mots d'anglais qu'il baragouine. Il n'a ainsi que des contacts extrêmement superficiels. Mais pourquoi souhaiterait-il autre chose ? Ses enfants suivent un programme scolaire normal, et l'idée que l'enseignement des langues pourrait être organisé autrement ne lui vient pas à l'esprit. Que la télévision lui présente Dallas, Dynasty, Santa Barbara ou Friends est une proportion énorme de production américaine, cela ne lui met pas la puce à l'oreille. Pourquoi vouloir que ce soit différent si les gens sont contents? Et quel rapport avec les langues? Quant aux autres niveaux, relations entre grandes institutions, entre États, entre scientifiques, ou même entre sportifs de différents pays lors des Jeux olympiques, tout cela se situe en dehors de son univers à lui. Les problèmes de langue qui se posent à cet échelon-là ne sont-ils pas résolus par des professionnels? Il y a des traducteurs qui s'occupent de ces choses. Et puis, nous dit-il, avec l'anglais, on se débrouille dans le monde entier. Lui-même ne peut pas soutenir une vraie conversation dans cette langue. Mais il ne doute pas que les gens qui en ont besoin le peuvent et que tout se passe très bien. Autrement dit, il n'y a pas de quoi se faire de soucis. Vous entendez Survoye al Esperanto, une émission présentée par l'association Esperanto 24. Vous pouvez nous retrouver à Périgueux, quartier des Mondoux, au 22 bis rue Charnay-Fraché. Notre téléphone 05 53 08 60 08. Pour ceux équipés d'internet, vous pouvez nous joindre à l'adresse esperanto.24@laposte.net ou sur notre site www.esperanto.fr.st. Mais voilà que, voyageant dans la République ex-yougoslave de Macédoine, une des personnes qui ont répondu d'un sens à l'enquête, un jeune de 23 ans, se trouve pris dans un accident de voiture. Son état exige quelques semaines d'hospitalisation à Skopje. Il a pour voisin de lit un ouvrier de 25 ans, garçon au visage sympathique avec qui il aimerait discuter. Hélas, c'est impossible. Cet homme ne parle que macédonien et serbo-croate. L'infirmière est mignonne et voudrait savoir comment notre français se sent. Mais il en est réduit à des onomatopées, des gestes, des expressions faciales. Bien sûr, c'est déjà quelque chose, une certaine communication s'établit. C'est fou ce qui passe dans un regard. Mais souvent, il faudrait exprimer des faits précis. Ma douleur se présente comme si, c'est un élancement qui se produit chaque fois que je... et ainsi de suite. Or, cette charmante personne, qui outre le croate, le slovène et le macédonien, parle albanais, allemand et italien, ne comprend rien au français de notre blessé, ni à ses 10 mots d'anglais d'ailleurs, qui de toute façon ne lui permettraient pas d'expliquer ce qu'il ressent avec la précision souhaitable. Cet homme vit de façon aiguë le handicap linguistique. Il est dans la même situation que la victime d'une attaque cérébrale qui, tout en étant parfaitement consciente de ce qu'elle veut dire, ne réussit pas à s'exprimer. C'est désespérant. Il n'y a pas de visite parce que la famille et les amis sont à l'autre bout de l'Europe, la solitude pèse, quand on n'a rien à faire toute la journée et personne à qui parler.
Sharke, itzela ta play alta pen. Shaumo, shaumo, shaumo kareza kaimare, shite maskare kaiplo. La amo, amor en la verda mobar. Dusho, dusho, dusho que recta me todo, mal dormas la verda mobar. Vivo.
Et puis voici une dame qui, lors de l'enquête, a répondu qu'il n'y avait guère de problème de langue dans le monde. Elle habite une de ces communes qui, lorsque Ceausescu a menacé de détruire toute une série de villages, a adopté une localité roumaine pour tenter de la sauver. Ceausescu est mort, la Roumanie a fait sa drôle de révolution, des contacts se sont enfin noués avec le village en question et une délégation roumaine a été invitée par la commune de la dame. Ces gens s'annoncent pour 10 jours. Une trentaine de personnes qui joueront de la musique, chanteront, danseront pour remercier leurs parrains occidentaux. Ils seront bien sûr logés chez l'habitant. Quand ils arrivent, il apparaît qu'aucun ne parle anglais et que 3 seulement savent un français approximatif. L'accueil est chaleureux, mais que de casse-tête. Le moindre petit problème matériel suscite une avalanche de gesticulations, de mimiques, de dessins parfois, et reste sans solution. Impossible de savoir ce qu'ils veulent, de leur faire comprendre ce que proposent nos villageois. Certes, la terre ne s'arrête pas de tourner pour autant, mais quelle fatigue pour le système nerveux et que de frustration. Les jeunes qui ont essayé de discuter politique en ont été pour leurs frais. On va pas loin avec des gestes et des expressions de visage pour comparer le monopole d'État à l'économie de marché, ou raconter un vécu précis concernant les méthodes de la police politique. Ici aussi, deux groupes de population se sont retrouvés enfermés dans le handicap linguistique. Le handicap empêche la réalisation du désir ou de la volonté. On sait ce qu'on veut dire, on est décidé à le dire, mais on est comme atteint de surdimudité sans avoir appris le langage des signes. À quelques kilomètres de là, c'est un groupe folklorique tchèque qui a été invité. Même situation, même vécu répété du handicap linguistique. Sur tout le groupe, un seul parle un peu d'anglais, 2 parlent l'allemand. La rencontre se fera par les yeux, les poignées de main, les gestes, pas toujours compris d'un peuple à l'autre. On avait l'impression qu'on aurait eu des tas de choses à se dire. Ils étaient tellement sympathiques. C'était énervant d'être là avec plein d'idées ou de questions dans la tête et pas moyen de sortir une seule phrase. Dans quelques familles d'accueil, c'est le même refrain. La frustration a été immense parce qu'ils appartiennent à des peuples différents et quand on ne prend pas les problèmes linguistiques au sérieux, nos contemporains se retrouvent dans la situation classique du handicapé. L'aisance a disparu, la richesse d'expression s'est envolée. Tout ce qu'on peut faire, c'est se débrouiller comme on peut, avec des moyens très primitifs. Voici un autre exemple tiré d'un journal genevois. La semaine dernière, une quinzaine de jeunes Russes âgés de 14 à 19 ans, venus de Krasnodar, mettaient le pied pour la première fois sur le sol suisse, accueillis par une délégation de jeunes Genevois. 2 semaines de visites intenses. C'est l'entente entre les deux groupes, avec une réserve toutefois. Les visiteurs regrettent de parler si mal les langues étrangères parce que la communication reste limitée. C'était diffusé dans le courrier du 9 juillet 1990. Il n'y a pas de problème de langue. Avec l'anglais, on arrive toujours à se débrouiller. Et si c'était un mythe? L'été dernier, j'étais assis à une terrasse ensoleillée à Savonien, village de Vaux-Montagne, sur la route du col de Julier. À la table voisine, un garçon, une fille. Leurs t-shirts identiques proclamaient qu'ils avaient participé à la même compétition en vélo tout-terrain. La conversation entre ces deux sportifs était atrocement pénible. Il s'agissait pourtant de 2 jeunes visiblement sains, en forme, en possession de leurs moyens. Mais l'absence d'une même langue réellement maîtrisée les forçait à se comporter en handicapés. Leur échange se déroulait dans un français massacré, haché, avec force reformulations, circonlocutions et gestes expressifs. Le garçon était hollandais, la fille suisse-allemande. Ces vestiges de français scolaire, agrammatical et d'une pauvreté linguistique à pleurer, était apparemment leur seule langue commune. Si, comme on le dit couramment avec l'anglais, il n'y a pas de problème de langue, d'où vient que ces deux-là étaient condamnés à cette communication primitive et frustrante? Si loin, cela se lisait sur leur visage, de souhaiter leur sympathie réciproque. sans une situation plus tragique. Deux jeunes orthopédistes suisses, Elio Henriquez et Emmanuel Christen, travaillaient pour la Croix-Rouge à Saïda, au Liban, lorsqu'ils ont été pris comme otages le 6 octobre 1989. Nous avons vécu comme des morts vivants coupés totalement du monde extérieur, dira l'un d'eux lorsqu'ils seront libérés après plus de 300 jours d'emprisonnement. Heureusement, me direz-vous, ils sont restés ensemble durant toute leur captivité. Oui, mais l'un était francophone, l'autre suisse-allemand. Une de leurs grandes souffrances, raconteront-ils à leur retour au pays, a été l'impossibilité de communiquer entre eux. Il a fallu qu'un gardien arabe leur procure un dictionnaire allemand-français pour qu'ils puissent progressivement arriver à se comprendre tant bien que mal. Pourquoi donc Elio Henriquez et Emmanuel Christen ne sont-ils pas parlé anglais? Et le jeune accidenté de Skopje, qu'attendait-il pour s'expliquer dans cette langue avec son voisin, avec l'infirmière, avec le médecin? Et les groupes roumains et tchécoslovaques, pourquoi ne se débrouillaient-ils pas en anglais avec les habitants qui les accueillaient si gentiment? Et les élèves de Genève et de Krasnodar, pourquoi ont-ils eu des problèmes de communication, si l'on se tire d'affaire toujours et partout avec l'anglais? L'idée que les problèmes de langue peuvent être facilement résolus soit par la large diffusion de l'anglais, soit avec l'électronique, soit par l'enseignement, n'a rien à voir avec la réalité. C'est un mythe, et ce mythe n'est pas limité à l'homme de la rue. On le retrouve au niveau le plus élevé. Le manque de maîtrise linguistique fait particulièrement souffrir quand on doit se défendre dans une langue mal maîtrisée. Un Américain d'une quarantaine d'années travaillant à Genève depuis 7 ans et capable de bien se débrouiller en français s'est inscrit à un club de tennis. Un jour, où il occupe l'un des cours avec son fils, il se fait agresser verbalement par une dame hors d'elle, apparemment parce qu'il n'a pas réservé la place selon les règles. Écoutons-le raconter son expérience. Le règlement prévoit que si le cours n'est pas occupé 10 minutes après l'heure indiquée au tableau de réservation, un autre membre du club a le droit d'y jouer. Je suis sûr que j'étais dans mon droit puisque cette dame et sa coéquipière sont arrivées avec un bon quart d'heure de retard. J'en ai parlé par la suite et mon bon droit m'a été confirmé. Mais elle fulminait avec une telle volubilité, une telle véhémence dans un français si parfaitement maîtrisé que je ne savais que répondre. Elle a même réussi à indigner contre moi quelques autres personnes qui se trouvaient là. Je me sentais tout bête. J'étais l'étranger, l'affreux Américain. Je savais qu'elle était dans son tort et que j'avais raison. Mais les mots ne venaient pas en français. J'ai fini par céder, c'était la solution la plus simple. Le commentaire de mon fils résonne encore à mes oreilles. Si c'était chez nous, on aurait continué à jouer parce que tu l'aurais remise à sa place en anglais. Pas de problème de langue, dit-on couramment, avec l'anglais, avec les traducteurs, voire. L'Europe occidentale est en train de faire face à un afflux inouï de réfugiés. En Suisse comme partout, ils débarquent des avions par centaines. L'administration, débordée par cet afflux, dépassant de très loin toutes les prévisions, n'a su où caser un dernier arrivage de 60 requérants d'asile. Le patron d'un motel voisin de chez moi a accepté de les héberger. Constatant que la plupart étaient vêtus de chemises d'été et autres t-shirts, alors que la température extérieure tournait autour des zéros, on était en janvier, une aide bénévole a battu le rappel des voisins, amis et connaissances pour recueillir des vêtements adaptés aux conditions locales. S'il n'y avait pas de problème de langue sur notre heureuse planète grâce à l'anglais, à l'interprétation simultanée ou à quelque autre solution miracle, on aurait réuni les réfugiés dans une salle et le coordinateur de la générosité ambiante leur aurait adressé la parole. Voici comment nous allons organiser la répartition des vêtements que nous avons recueillis pour vous. N'est-ce pas ce qui se fait dans une université, à l'armée et sur un chantier? Mais en l'occurrence, s'il y avait parmi les Sri Lankais un homme comprenant l'anglais et pouvant faire passer le message en tamoul, parmi les Africains une certaine connaissance de l'anglais ou du français, ces heureuses conditions n'existaient que pour un tiers de l'assemblée. Les deux autres tiers auraient eu besoin d'un interprète kurde, serbo-croate, albanais, pouchtou, etc. Aucun moyen de communication n'était disponible entre d'une part ces réfugiés et d'autre part les deux responsables pourtant remarquables polyglottes. L'impossibilité d'organiser la répartition des vêtements a suscité une bagarre. N'arrivant pas à se comprendre, les réfugiés en sont venus aux mains. Le directeur du motel, homme patient et généreux, d'une excellente composition jusque-là, a senti monter en lui les pulsions racistes les plus meurtrières. L'entrefilet suivant donne un exemple des risques que comporte le handicap linguistique. Deux hommes se sont presque entretués à Saint-Louis, dans le Haut-Rhin, parce que l'un ne parlait que l'italien et l'allemand, l'autre l'arabe et le français, et que chacun pensait à tort que l'autre l'insultait. L'un des antagonistes s'est retrouvé à l'hôpital avec 3 balles de pistolet 6.35 dans le corps. Son état est jugé sérieux. La bagarre a éclaté devant un portail, alors que les deux hommes s'apprêtaient à sonner, chez un ami commun. On a échangé quelques mots, d'abord en allemand et en français, puis le ton montant, en italien et en arabe. Chacun, sans comprendre l'autre, croyait que celui-ci l'insultait. Cette information est parue dans le journal de Nyon le 5 septembre 1985. La mauvaise communication linguistique peut avoir des conséquences bien plus tragiques. Par exemple, l'accident dramatique survenu début janvier 1993 à Roissy, un biturbopropulseur Dash-8 allemand serait dû à une mauvaise compréhension des messages émis par la tour de contrôle, selon les mêmes sources. Paru dans Science et Avenir de février 1993. Une bonne partie des accidents d'avion aurait pour cause l'essentiel l'usage de la radio qui assure les liaisons entre le sol et l'avion. Car en dépit d'une langue commune, l'anglais, il arrive très fréquemment que les interlocuteurs se comprennent mal, ne serait-ce que du fait d'une mauvaise prononciation. Le syndrome de Babel est une structure sociopathologique inconsciente, organisée, à la manière classique des traits névrotiques, pour résister à la mise en lumière. Il amène notre société à mettre en œuvre toutes sortes de tactiques pour nier les problèmes causés par le choix des langues de communication. La citation qui vient d'être présentée en offre un bon exemple. Alors que les catastrophes sont dues à une mauvaise compréhension de l'anglais, l'auteur déclare sans sourciller que la cause essentielle est l'usage de la radio. Diverses tragédies surgissent parce qu'un message d'une importance vitale ne passe pas, non parce que l'intéressé ne comprend pas la langue, mais parce qu'il ignore le sens de certaines formes argotiques ou familières. Combien de touristes voyageant aux États-Unis sont-ils capables d'avoir le réflexe voulu lorsqu'une voix autoritaire leur lance la monosyllabe « freeze », littéralement « gelé ». Un Japonais de 16 ans a payé de sa vie cette incompréhension en avril 1993. Il se promenait innocemment la nuit aux abords d'une propriété étroitement surveillée. Un garde de sécurité, trouvant ses mouvements louches, au point de le prendre pour un rôdeur, lui a crié « Freeze !» Arrêté, ne bougeait plus, tel un bloc de glace. L'adolescent, qui se débrouillait passablement en anglais courant, n'a pas compris cette injonction argotique et a poursuivi son chemin. Le garde a tiré.
Au cours de cette partie, vous avez pu entendre d'abord le groupe argentin La Porcoy, les cochons, avec le titre La Vivon Varmigas Lasun, le soleil chauffe la vie. Et puis le japonais La Mevo, la mouette, avec Mona Vida, avide d'argent. Aujourd'hui, je vous propose de revoir l'ensemble des suffixes que nous avons vus, révisés ou appris la fois précédente. C'est Fernande qui va m'apporter son aide pour dire des phrases et je décortiquerai après elle les mots contenant un ou plusieurs suffixes pour vous rappeler quel est leur sens et comment on les emploie. J'en profiterai pour vous remémorer d'autres points de grammaire en analysant les divers composants de chaque phrase. Cara onclino, mi auscultas vin.
Printempe, la schafo, la schafino cae la schafido pastas sur la herbeio.
On va d'abord repérer les mots par rapport à leur terminaison. Vous avez entendu la schafo, la schafino, la schafido, la herbeio. Nous avons là quatre mots se terminant en o, c'est-à-dire que ce sont des substantifs et qu'ils sont tous au singulier. Alors le premier mot c'est printempe, c'est un adverbe qui est dérivé d'une racine avec laquelle on peut avoir également un substantif puisque printempo c'est le printemps, ici c'est au printemps, la forme adverbiale. On voit également l'article défini la qui est unique, hein, qui s'emploie devant tous les mots puisque tous les mots sont neutres. On a repéré le verbe pastas, le verbe paître qui à l'infinitif c'est pasti. Ici, il est conjugué au présent. Nous avons trois substantifs avec trois affixes différents. Schafino, qui signifie donc la brebis. Donc, ino, on l'avait déjà vu, c'est tout ce qui est le sexe féminin. Schafido, ido, le petit. Ici, c'est l'agneau, schafido. Et puis, le dernier, herbeio. Ici, c'est un endroit planté d'herbe, herbo.
Printempe, la schafo. La schafino cae la schafido pastas sur la herbeio. Au printemps, le mouton, la brebis et l'agneau paissent dans la prairie.
On peut remarquer qu'en dans notre langue, en français, les trois mots qui se rapportent à l'espèce animale n'ont aucun rapport les uns avec les autres, n'ont aucune racine commune, mouton, brebis, agneau, Effectivement, on ne peut pas se douter que ça concerne la même espèce animale. Un autre exemple.
Hierau, mia onclino, kai miai cousinoi, promenis cun mi sur camparo.
Nous avons dans cette phrase trois substantifs. Onclino, camparo, les, ces deux-là sont au singulier. Et puis cousinoi, qu'on a mis au pluriel, le son oi avec le o et le j. Le premier mot, c'est hierau, c'est un adverbe, qui lui est un adverbe pur, qui n'a pas de, qui n'est pas une racine, on ne peut pas lui ajouter une forme adverbiale, c'est déjà en lui-même un adverbe pur. Et puis le verbe promeni, qu'on a mis au passé pour faire promenis. La préposition, kun, qui signifie avec. Et on a vu également les adjectifs possessifs, mia, qui est mon ou ma, et puis au pluriel, miai, miai cousinoi, donc mes cousines. Donc nous avons ici deux affixes, deux fois le même, hein. Ino, encore le féminin, onclino et cousinoi. Et puis le dernier, camparo, arose, qui signifie un ensemble de, et ici c'est un ensemble de champs, puisque campo est un champ, camparo, l'ensemble des champs, la campagne.
Hierau, mia onclino, kai miai cousinoi, promenis cun mi sur camparo. Hier, ma tante et mes cousines se sont promenées avec moi à la campagne.
Si je voulais que ma phrase signifie au masculin « Mon oncle et mes cousins se sont promenés avec moi à la campagne », ça nous rendrait « Hierau mia onclo kai miai cousoi promenis con mi sur camparo ».
Sandai keine Bösei, wir Thema etzoi bagatelloi. Gestoi passosai, sigarettoi, cigarettinkoi, tintoi patilettai. Gauvo, contractoi, cercoi matitettai, su prago quasi fratai knetoi. Te commerciai luctoi anima criso langa raspai ructoi pa fardo di nu catoccio cun existo se ripensa la televido cae di nome spleno morga o se ci vispere la festeno cortelo illusia senza cortelo illusia senza cocktailo illusio senza cocktailo illusio senza cocktailo illusio senza. Hey!
Retour à la grammaire, à toi Fernande pour un nouvel exemple.
Ci vespere la musicestro gvidos grandan musicistaron.
Ici nous avons deux substantifs, musicestro et puis musicistaron. Le premier il est sujet, il se termine en o, et le deuxième il est complément d'objet direct, on appelle ça accusatif, et donc il prend un n après son o pour faire le son on. Et puis, alors en entrée, ci vespere, encore un adverbe, là c'est la forme adverbiale de la racine de vespero, le soir, ci vespere, ce soir. Le verbe c'est gvidi, le verbe guider, animer, qui est donc qui donne au futur, gvidos, guidera. Grandan, c'est un adjectif qui prend également la forme accusative avec musicistaron. Et finalement, les suffixes que nous reconnaissons ici, musicestro, musico, c'est la musique, estro, c'est le chef, donc le chef de la musique, c'est le chef d'orchestre. Et le dernier mot, musicistaron, on reconnaît encore la même racine, musico, mais là on lui a collé deux affixes. Il y a d'abord ist qui signifie le métier, la profession, musicisto, c'est un musicien, et puis aro, on l'a vu comme tout à l'heure avec camparo, un ensemble de, et ici c'est l'ensemble des musiciens, donc on l'a traduit par un grand ensemble de musiciens.
Ci vespere la musicestro gvidos grandan musicistaron. Ce soir, le chef d'orchestre guidera un grand ensemble de musiciens.
Un autre exemple.
La senharulo ne besonas serci combilon en sia toiletteio.
Dans cette phrase, on a trois substantifs. Senharulo, combilon, toiletteio. Et celui que je vous ai dit donc au milieu, combilon, c'est une forme accusative, un complément d'objet direct. Le verbe besoni est conjugué au présent, besonas. Il est suivi du verbe chercher qu'on a là à l'infinitif, serci. Nous avons également le ne qui indique ne besonas, n'a pas besoin, qui est donc un adverbe négatif, qui est toujours employé avant le mot auquel il se rapporte, ici avant le verbe avoir besoin, donc ne besonas. Qu'est-ce qu'on découvre également? N, c'est encore notre préposition en. Et puis enfin, on a l'adjectif réflexif. Sia toiletteio, c'est-à-dire que la personne est dans le lieu qui est à elle. On découvre ici trois suffixes différents. Sen harulo, c'est donc ulo, un individu. Sen hara, ça veut dire sans cheveux, puisque haro, c'est un cheveu. Ensuite, combilon, le peigne, parce que ilo, c'est le suffixe qui indique l'outil, l'instrument. Ici, donc, c'est l'outil pour peigner, puisque combi, c'est peigner. Combilo, l'objet qui sert à peigner, le peigne. Et le dernier mot, toiletteio, on reconnaît encore eio, qu'on a vu tout à l'heure avec herbeio, dans la prairie. Ici, c'est le lieu où on fait sa toilette. Donc, toiletto, c'est la toilette. Toiletteio, le cabinet de toilette.
La senharulo ne besonas serci combilon en sia toiletteio. Le chauve n'a pas besoin de chercher un peigne dans son cabinet de toilette.
Un autre exemple.
Morgau, la viandisto vendos bovajon kai porcajon alla clientoi.
Quels sont donc les substantifs? Dans cette phrase, on a viandisto, bovajon, porcajon, clientoi. Nous avons encore deux formes accusatives, bovajon, porcajon. Ce sont donc deux compléments d'objet direct du verbe vendos, le verbe vendi qui est conjugué au futur. Nous avons en entrée l'adverbe morgau, demain. Viandisto étant donc un substantif qui contient le suffixe isto. On l'a vu, c'est la profession, comme dans musicisto. Ici, viandisto, celui dont le métier est de s'occuper de la viande, donc c'est le boucher. Et puis les deux mots qui sont à la forme accusative, bovajo, kai porcajo. Age, c'est une chose concrète et je vous avais signalé qu'on s'en sert pour indiquer les noms des viandes des animaux. Les animaux vivants, ici l'exemple c'est bovo, c'est un bœuf. Bovajo, le morceau de bœuf, la viande de bœuf. Et puis porcajo, porco, le porc, porcajo, la viande de porc. Je vous signale également la préposition al la clientoi, au client, donc al qui indique en direction de, envers.
Morgau, la viandisto vendos bovajon kai porcajon al la clientoi. Demain, le boucher vendra du bœuf et du porc aux clients.
Fin de notre rubrique grammaire. Pendant la pause musicale, vous avez pu entendre le groupe scandinave Esperanto Desperado avec leur chanson Festeno, qui signifie festin, de l'auteur britannique William Auld.
Vous entendez Survoye al Esperanto, une émission présentée par l'association Esperanto 24. Vous pouvez nous retrouver à Périgueux, quartier des Mondoux, au 22 bis rue Charnay-Fraché. Notre téléphone 05 53 08 60 08. Pour ceux équipés d'internet, vous pouvez nous joindre à l'adresse esperanto.24@laposte.net ou sur notre site www.esperanto.fr.st.
Estas tempo por disigi nin, il est temps de nous séparer. Hodiaŭ mi deziras danki Jacques, Fernande kaj Thierry. Et aujourd'hui, on va dire merci à Jacques, à Fernande et à Thierry. Gis revido, gis la venonta foio, à la prochaine fois.